Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? En direct sur Radio Saféréol 94.2, l'émission qui compte. En direct les 4e mardis du mois à 11h, retransmis les 4e dimanches du mois à 13h. Aujourd'hui, nous sommes le 4e mardi du mois. Et donc, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette émission qui s'inscrit dans le cadre de la semaine de solidarité. Alors, j'ai cherché dans le dictionnaire la définition de la solidarité. La solidarité, ce sentiment qui pousse les hommes à s'accorder une aide mutuelle. Autre définition, la solidarité, sentiment d'un devoir moral envers les autres membres d'un groupe, fondé sur l'identité de situation ou d'intérêt. Agir par solidarité. Voici une première histoire qui nous vient des pays amérindiens, où les protagonistes vont agir par solidarité. Cette histoire se passe il y a très longtemps. Au commencement, avant que sur Terre il y ait des femmes, des hommes et des enfants, il y avait déjà au pays indien des rivières, des plantes, des montagnes, des lacs. Et puis, il y avait aussi des animaux. Des bêtes à fourrure, des bêtes à plumes, des créatures marines qui étaient couvertes d'écailles. Et tous vivaient bien, vivaient heureux. Il y avait de la nourriture suffisamment. Et le printemps succédait à l'hiver, et les animaux étaient contents lorsque, effectivement, le printemps arrivait. Ils étaient heureux de voir le soleil qui réchauffait la terre, la neige fondre et la végétation reprendre. Et voilà qu'un hiver, il s'est mis à neiger. À neiger beaucoup. Et surtout, il a neigé pendant des jours et des jours. La neige tombait et le ciel était noir. La neige remplissait peu à peu les sentiers, les vallées. Et ça a duré pendant un an, 2 ans, 3 ans. L'hiver ne s'arrêtait plus. Les animaux avaient du mal à se nourrir parce que malgré leur fourrure, ils avaient froid. Beaucoup sont morts. Alors les survivants se sont réunis en un grand conseil. Et tout le monde était là. Il y avait le lapin, le caribou, il y avait la souris, le renard, la truite, le brochet, l'écureuil, le blaireau, la fourmi, l'araignée, l'aigle, le canard et encore bien d'autres animaux. Le renard a pris la parole. « Ça ne peut pas durer comme ça. S'il n'arrête pas de neiger, nous allons tous mourir. Il faut absolument que le soleil revienne. » Ah, le soleil. Le soleil, ah, comme c'était bon quand il y avait le soleil. Ah, on pouvait s'étendre dans l'herbe et puis se chauffer le ventre au soleil. Ah, le soleil était chaud et la lumière était douce. Et tous les animaux se sont mis à parler du temps où il y avait un été, où il y avait un printemps. Les jeunes, eux, n'avaient pas connu, ils n'avaient connu que la neige et ils écoutaient les autres évoquer le souvenir du temps où il y avait le soleil et la chaleur. Le blaireau, lui, ne disait rien. Il était dans son coin et comme d'habitude, il était toujours à moitié endormi, alors personne ne s'en occupait. Et soudain, il s'est réveillé. Il a regardé les autres avec ses yeux de blaireau et il a dit « Mais où est l'ours ?» Est-ce que quelqu'un a vu l'ours ? Alors tous les regards se sont braqués sur lui. L'ours ? Oh ben non, a dit l'écureuil, ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas vu, hein, au moins 1 an. Et moi 2 ans. Et moi 3. Et les animaux ont constaté que personne n'avait vu l'ours depuis bien longtemps. Alors peut-être c'est l'ours qui a pris toute la chaleur du monde, a dit le renard. Et s'il l'a emporté sur son île de l'autre côté du lac, eh bien, formons une délégation et allons voir. Des volontaires ont été choisis. On a pris le caribou, parce qu'il était grand et fort. Le lynx, parce qu'il a une vue perçante. Le blaireau, parce que c'est lui qui avait parlé de l'ours en premier. Le renard, parce qu'il était malin et rusé et qu'en plus il avait un grand canoë dans lequel ils pourraient tous se mettre pour aller voir de l'autre côté du lac, dans l'île où vivait l'ours. Ils ont tiré le canoë et au moment où ils allaient monter dedans, il y a la petite souris qui est arrivée. Elle a dit « Moi, j'ai des bonnes dents et je peux être utile. » Elle a sauté dans le canoë. Tout le monde aimait bien la petite souris et puis elle était si petite. Alors on l'a laissée faire. Le caribou, le lynx, le blaireau, le renard et la petite souris ont pagayé jusqu'à l'île où vivait l'ours. Et plus ils avançaient vers l'île, plus ils se disaient que leur hypothèse devait être la bonne parce qu'il faisait de plus en plus chaud. Ils ont vu que sur l'île où vivait l'ours, il n'y avait pas de neige. Il y avait de l'herbe, les arbres avaient des feuilles et il faisait bon. Le renard a accosté et ils sont tous descendus. Ils ont flairé l'air autour d'eux et ils ont repéré les traces des grosses pattes de l'ours. « Je vais aller en reconnaissance », a chuchoté le renard. « Faites le guet et prévenez-moi, vous avez qu'à faire du bruit dès que vous entendez quelque chose. » Guidé par la chaleur qui émanait d'une grotte de la montagne, le renard a eu vite fait de trouver la tanière de l'ours. Et il s'est faufilé à l'intérieur. Oh, il faisait bon. La chaleur venait d'un énorme sac qui était posé dans un coin de la caverne. Le renard a essayé de soulever le sac, mais le sac était très lourd et n'y arrivait pas. Aussi vite qu'il a pu, il est retourné chercher les autres. Lynx, blaireau, caribou, et lui, en s'y mettant tous, ils ont réussi à pousser et à tirer le sac hors de la grotte et à le traîner sur le rivage jusqu'au canoë du renard. Oh! Ils ont soulevé et hop, ils l'ont fait basculer dans le canoë. Ils allaient repartir quand la petite souris est arrivée. « Attendez-moi, attendez-moi !»« Mais qu'est-ce que tu fabriques ?» a grommelé le lynx. « On a failli partir sans toi !» Et à ce moment, ils ont entendu des grognements terribles. L'ours était retourné à sa caverne et il avait découvert la disparition du sac. Vite, alors le renard a pagayé aussi vite qu'il a pu. Et le canoë a filé sur le lac. Le blaireau qui regardait derrière a vu l'ours qui sautait dans son canoë et qui empoignait sa pagaye pour partir à leur poursuite. « plus vite !» a soufflé le blaireau. « Ah, je fais ce que je peux !» a le renard qui ramait de toutes ses forces. Mais le blaireau et le lynx ont regardé derrière eux et ils ont vu que, crac, la pagaye de l'ours s'est cassée et que l'ours a culbuté en avant et il a fait chavirer son canoë. « Oui, j'ai rongé la pagaye de l'ours avec mes dents. » a dit la petite souris. « Bravo la souris! Bravo !» Ah, ils ont eu vite fait d'atteindre l'autre rive. Là, ils ont déchargé le sac, le caribou a défait le lien qui l'attachait et le soleil a bondi dans le ciel. Le vent a balayé les nuages et la chaleur est revenue. Les animaux étaient contents, ouais, au début, parce que la neige a commencé à fondre. Elle s'est arrêtée de tomber et celle qui était sur le sol a commencé à fondre. Le ciel est redevenu bleu, les animaux étaient heureux. Mais voilà, elle avait neigé pendant tellement longtemps. L'épaisseur de neige était très très épaisse. Et quand la neige fond, ça donne de l'eau. La neige a fondu et l'eau a commencé à monter. Les ruisseaux sont devenus des rivières. Les rivières sont devenues des fleuves. Les fleuves des mers, les mers des océans. Il y avait tellement, tellement d'eau. L'eau des lacs a envahi les vallées, les plaines, les forêts. Le niveau a monté, monté, monté. Et bientôt, les animaux ont tous été obligés de se réfugier sur le seul morceau de terre encore émergé. Et là, ils étaient tous serrés les uns contre les autres. Il y avait même l'ours. Il lui avait pardonné. Seulement... c'était le déluge, ils étaient tous serrés là et ils regardaient l'immense surface liquide en dessous d'eux et se demandaient quoi faire. Alors, de nouveau, ils ont tenu conseil. J'ai une idée, a dit la loutre. On pourrait aller chercher de l'eau sous, au fond de l'océan. J'y vais. À la plongée, les autres animaux ont regardé. Elle a été longue à remonter. Et quand elle est remontée, elle a dit « désolée, mais j'ai pas pu atteindre le fond. À mon tour, a dit la carpe. La carpe, à son tour, s'est enfoncée dans les profondeurs de l'eau. Les autres animaux regardaient, mais quand elle est remontée, la carpe a dit non, j'ai pas pu y arriver, c'est trop profond. Et le brochet a essayé, le castor, et tous ont échoué. Les animaux étaient désespérés. Eh bien, moi je vais essayer, a dit le canard. Il a basculé en avant, il a battu l'air de ses pieds palmés, et poup, il s'est enfoncé. Et il s'est enfoncé, et puis l'eau était de nouveau calme, les animaux regardaient, rien ne s'est passé pendant très très longtemps. Elle se demandait si le canard allait remonter un jour, mais finalement, le canard est remonté et dans son bec, il avait de la terre. « J'ai trouvé le chemin !» À la suite du canard, toutes les bêtes aquatiques ont plongé. Et elles sont toutes allées chercher de la terre au fond de l'eau. Et elles, en empruntant le chemin qu'il avait trouvé. À cette terre, ils l'ont déposée et la terre s'est agrandie. La crête s'est agrandie et ils ont pu se séparer. Et peu à peu, comme le soleil brillait, eh bien, le niveau de l'eau a baissé, les arbres se sont recouverts de feuilles, les fleurs se sont épanouies, et ça a été de nouveau l'été. Chacun a pu reprendre son rythme de vie. Puis les saisons se sont de nouveau succédées. L'été, l'automne, l'hiver, et le printemps est revenu. L'ours n'a plus jamais tenté de s'approprier toute la chaleur du monde. Et depuis ce jour-là, les saisons se succèdent au pays indien. Les animaux vivent bien, même si les hommes sont arrivés. Alors, une pause musicale avec Thomas Fersen, Bucéphale.
Ce maudit canasson emportait cette course, ça enflouait ma bourse et noirait le poisson. Si ce maudit canasson emportait cette épreuve, peu importe qu'il pleuve, ça saurait la saison. Si ce vieux Bucéphale n'est pas le bon cheval, je mange mon journal. Si ce maudit canasson gagne sur le papier, il reste à recopier tout ça sur le gazon. Si un autre canasson vient mettre le désordre, il me reste la corde, la balle ou le poison. Si ce vieux Bucéphale n'est pas un bon tuyau, je mange mon chapeau. Ce maudit canasson renaissait de ses cendres, je serais l'Alexandre du débit de poisson. Mais si un autre équidé sort du cornet à dés, je rends mon tablier et je me fais oublier. Si ce vieux Bucéphale ne vaut pas un jeton, je mange mon melon. Sur ce maudit canasson, j'ai joué mon alliance pour sauver la finance, redorer mon blason. Et j'ai le cœur qui galope et les poumons qui jonglent. Je fume clope sur clope et je mange mes ongles. Si ce vieux Bucéphale ne sauve pas la mise, je mange ma chemise. Que partie remise, si cette jument grise n'est pas le bon filon, j'avale mon pantalon.
Ah. Alors vous savez, on parle aussi de solidarité familiale, même si parfois elle a ses limites. Cette histoire se passe au pays mongol, au temps où les désirs s'exauçaient encore. Il y avait un roi qui avait une fille si belle que le soleil lui-même, le soleil qui pourtant en avait caressé bien d'autres, eh bien le soleil, lorsque la princesse sortait se promener dans le jardin royal, lorsqu'il effleurait de ses rayons ses joues de velours, le soleil lui-même tremblait. La princesse était belle, elle était plus belle que le soleil, et on l'avait surnommée la princesse dorée. Voilà qu'un jour, la princesse dorée a disparu. Le roi a envoyé ses meilleurs guerriers à la recherche de sa fille, mais les guerriers sont revenus, bredouilles, et n'avaient rien trouvé. Le roi a demandé aux devins, aux mages, ils ont fait des incantations, des cérémonies. Eux non plus n'ont pas retrouvé trace de la princesse dorée. Le roi était inconsolable, la princesse dorée restait introuvable. La nouvelle de la disparition de la princesse s'est répandue et le temps a passé. Un jour, un berger est venu trouver le roi. Il lui a dit, « Majesté, moi, je ne sais pas, je suis qu'un berger, je ne sais pas où est la princesse. Mais par-delà les montagnes bleues vit un vieil homme qui s'appelle Altaï. Lui, jadis, c'était le meilleur chasseur du royaume et maintenant, il est vieux, il est sage et il a 7 fils, qui sont tous des chasseurs exceptionnels. Peut-être Altaï pourra vous dire où se trouve votre fille, la princesse dorée. » Le roi aussitôt a voulu envoyer des émissaires chercher le vieil homme, mais le berger lui a dit, « Vous savez, Altaï, c'est un homme très fier. Et si vous lui commandez de venir, ce n'est pas sûr qu'il vous obéira. » Le roi, qui était prêt à tout pour retrouver sa fille, s'est dit que le berger avait raison. Alors il a envoyé des émissaires chargés de cadeaux pour prier le vieil homme de bien vouloir se rendre à la cour du roi. Les émissaires sont partis par-delà les montagnes bleues. Ils sont allés jusque là où vivait le vieil homme. Et ils lui ont offert les cadeaux que le roi lui envoyait. Ils lui ont dit que le roi souhaitait qu'il vienne lui parler. Le vieil Altaï a souri. Il a dit, si le roi m'envoie des cadeaux aussi somptueux, sans doute il a quelque chose de bien difficile à me demander. Parce qu'il a plus l'habitude de prendre que de demander. Il a accepté de suivre les émissaires du roi. Il est passé par-delà les montagnes bleues, il est arrivé à la cour. Là, le roi l'a laissé se restaurer, se reposer. Et puis, il lui a expliqué que sa fille, la princesse dorée, avait disparu, qu'il était prêt à tout pour la retrouver, qu'il donnerait à celui qui retrouverait la princesse la moitié de son royaume, la moitié de ses troupeaux et la main de sa fille. Altaï est retourné chez lui. Il a sorti 7 flèches. Et puis il a fait appeler ses 7 fils. Il leur a dit, « Mes fils, je sais que vous êtes tous d'adroits chasseurs, je sais que chacun de vous est fort, mais qu'à vous tous, vous êtes invincibles. Je vais vous donner à chacun une de ces flèches. Ces flèches rendent possible l'impossible, rendent faisable l'infaisable. Et vous allez me dire, chacun à tour de rôle, quel est votre talent particulier. » Le fils aîné s'est avancé, le premier. Il a dit, « Moi, père, j'ai une vue perçante. Si une fourmi est passée ici il y a 7 ans, eh bien je peux retrouver sa trace et voir où elle est aujourd'hui. » Le second fils s'est avancé ensuite et il a dit, « Moi, mon père, je suis un bon grimpeur. Je peux escalader la montagne la plus escarpée, la paroi la plus lisse, jusqu'au sommet. » Le troisième a dit, « Ah, je peux voler une plume sur la queue d'une pie sans qu'elle s'en aperçoive. » Le quatrième avait de bonnes jambes et il pouvait défier le vent à la course. Le cinquième fils d'Altaï avait des bras solides. Il a dit à son père, « Moi, mon père, si la lune tombait du ciel, je la recevrais dans mes bras sans en l'égratigner. » Le sixième, Le sixième a dit « Moi, rien qu'en soufflant, je peux faire effondrer la montagne la plus solide. » Il ne restait plus qu'une seule flèche. Alors le plus jeune fils d'Altaï s'est avancé. Il a dit « Moi, mon père, je suis bon archer. Avec une seule flèche, je peux atteindre la fourmi de mon frère aîné à parler. » C'est bien, mes fils, chacun de vous est fort et à vous tous, vous êtes invincibles. Le roi m'a envoyé chercher la princesse dorée, sa fille a disparu. Celui qui la retrouvera l'épousera, mais si vous la retrouvez, la gloire sera pour vous tous. Allez et retrouvez la princesse. Les sept frères ont fait leurs adieux à leur père et puis ils se sont mis en route. Ils sont allés par-delà les montagnes bleues jusqu'au royaume, jusque là où la princesse avait été vue pour la dernière fois. Le frère aîné, celui qui avait la bonne vue, a examiné le sol. Il a dit « Mes frères, regardez, vous voyez ?» Les autres frères ne voyaient rien du tout. « Mais si, là, cette trace, la trace de plume sur la pierre, je vois la trace d'une griffe aussi dans l'herbe, c'est un oiseau qui a enlevé la princesse dorée. » Un frère aîné s'est redressé, il a regardé loin, loin, très loin, et il a dit « Là, là-bas, là-bas, sur le roc noir, là où il y a le nid de l'oiseau géant, Kankeriti, je vois un cheveu doré, c'est un cheveu de la princesse. C'est sûrement ce monstre, l'oiseau géant, qui a enlevé la princesse. » Aussitôt, ils ont chevauché jusqu'au roc du soleil, là où vivait l'oiseau géant, le monstre Kankeriti. Le voyage était long et difficile. Et quand les sept frères sont arrivés, le roc noir se dressait devant eux, une paroi complètement lisse et brillante, sans la moindre anfractuosité pour y mettre le pied. « À moi de jouer, » a dit le frère grimpeur. Et il a escaladé le rocher, les autres retenaient leur souffle en bas. Et il est arrivé jusqu'en haut. Et puis il est redescendu aussi vite qu'il était monté. Il a dit « Elle est là, la princesse est là. Je l'ai vue, mais l'oiseau la tient serrée sous son aile. Eh bien, j'y vais, » a dit le frère voleur. Alors le frère grimpeur a pris son frère voleur sur son dos et de nouveau, il a escaladé la paroi verticale. Là, très doucement, sans que l'oiseau se réveille, le frère voleur a dégagé la princesse qui était endormie sous l'aile de l'oiseau. Il l'a pris dans ses bras et est remonté sur les épaules de son frère et ils sont redescendus. Et puis, tout doucement, il a déposé la princesse toujours endormie sur le sol. Elle et sept frères l'ont regardée. Et la princesse dorée était belle. Elle était plus belle que le soleil. Alors ils sont restés en contemplation devant la princesse jusqu'à ce que soudain le ciel s'obscurcisse. C'était l'oiseau Kankeriti qui avait déployé ses grandes ailes noires et qui fondait sur eux. De toute sa vitesse, il s'est emparé de la princesse, il l'a pris dans ses griffes et il est remonté dans le ciel. Le frère archer, le plus jeune, a saisi la flèche que lui avait donnée son père. La flèche qui rendait faisable l'infaisable, qui rendait possible l'impossible. Il a bandé son arc, il a tiré la flèche si adroitement qu'elle a atteint la griffe de l'oiseau. Et l'oiseau, avec un cri de douleur, a lâché la princesse qui allait tomber sur le sol, qui est tombée comme une pierre. Heureusement, le frère qui avait des bras puissants a tendu ses bras et la princesse est tombée dans ses bras sans même se réveiller. L'oiseau, sifflant de fureur, allait de nouveau se précipiter sur eux, mais le frère qui avait un souffle puissant a soufflé. Et le roc du soleil, le roc noir, s'est effondré dans un grand fracas et a enseveli pour toujours l'oiseau géant. Les sept frères se sont aperçus alors que la princesse était pâle et immobile, comme une morte. Le frère aîné a dit « Il faut la ramener chez son père le plus vite possible. Toi, mon frère, toi qui as de bonnes jambes, eh bien, prends-la dans tes bras et emmène-la au palais. » Et avant même qu'il ait fini sa phrase, le frère, qui avait des jambes rapides, a pris la princesse dans ses bras. Il a couru et la princesse s'est retrouvée dans le palais de son père. Là, elle est revenue à elle, toute surprise. Et bien, le frère rapide a attendu que ses autres frères soient de retour. Et quand les sept frères ont été de nouveau réunis à la cour du roi, quand la princesse a eu retrouvé la santé, une grave question s'est posée. Lequel des sept frères avait sauvé la princesse ? Sans moi, a dit le frère aîné, sans ma vue perçante, eh bien, jamais on ne l'aurait retrouvée. Oui, mais sans moi qui ai escaladé le rocher, personne non plus n'aurait pu la sauver. Et moi, a dit le frère voleur, qui l'ai dégagé de sous l'aile de l'oiseau. Et moi, a dit le frère archer, moi j'ai tiré la flèche qui l'a libérée des griffes de l'oiseau. Oui, mais sans moi, elle se serait écrasée sur le sol, a dit le frère qui avait des bras puissants. Et moi, je l'ai ramenée au palais de son père, sinon elle serait morte dans le désert. Alors, le roi était bien embêté. Il a fait appeler ses conseillers. Les conseillers ont débattu. La princesse était là aussi, la princesse dorée. Elle se tenait tranquille dans un coin. Elle a attendu un moment. Les conseillers ne savaient pas. Finalement, un d'eux a dit « Eh bien, Majesté, les sept frères étaient utiles pour libérer votre fille. Il lui suffit qu'il en manquât un seul pour qu'elle reste prisonnière ou qu'elle meure. Seulement, il nous semble que celui qui a fait écraser la montagne sur l'oiseau géant l'a délivrée pour toujours de cette menace. » Donc c'est peut-être lui qui devrait l'épouser. Ah, très bien, dit le roi, qu'on prépare les noces. Mais à ce moment, la princesse s'est levée. La princesse a dit, écoutez-moi, supposons qu'un homme riche et un homme pauvre donnent chacun une pièce d'or à un mendiant. Pour l'homme pauvre, il a donné tout ce qu'il avait. C'est son unique pièce. L'homme riche, lui, a encore une bourse bien garnie. À votre avis, est-ce qu'ils sont généreux de la même façon ?
Certainement pas, dit le roi. L'homme pauvre, il a donné tout ce qu'il avait. C'est lui le plus généreux.
Alors, dans cette histoire, lequel a donné ce qu'il avait de plus précieux pour me sauver ? La flèche magique que lui avait donnée son père ? C'est lui qui doit m'épouser. À tous, on dit que la princesse avait raison, et même les six frères ont reconnu que c'était le plus jeune qui devait l'épouser. Et c'est ainsi que le plus jeune des sept frères du vieil Altaï a épousé la princesse dorée. Il a partagé avec ses frères toutes les richesses que le roi lui a données, il lui a partagé le royaume, mais sa femme, il l'a gardée pour lui. La solidarité a des limites. On raconte aussi que si la princesse a parlé d'équité, si elle a dit tout ce qu'elle a dit, ce n'est pas seulement par esprit de justice, c'est aussi que le plus jeune était aussi le plus beau. Et alors, pour finir cette émission, une histoire de Nasreddin. Vous connaissez tous Nasreddin Hoxha. Certains disent qu'il est fou, certains disent qu'il est sage. Certains disent qu'il est à la fois fou et sage. Donc un jour, un cousin qui habite dans un village lointain vient rendre visite à Nasreddin. Et il lui apporte en cadeau un coq. Nasreddin l'accueille chaleureusement et prépare le coq pour le repas de midi. Et après le repas, le cousin rentre chez lui. Le lendemain, un homme se présente chez Nasreddin. « Je suis le voisin du cousin qui t'a apporté le coq hier. »« Bienvenue à toi, » répond Nasreddin. Et il se met à préparer une soupe avec les restes du coq de la veille. Et il la mange avec son invité. Le troisième jour, un autre homme frappe à la porte. Bonjour, je suis le voisin du cousin qui t'a offert le coq. Bienvenue à toi, dit Nasreddin. Il ajoute de l'eau au reste de la soupe de la veille et il la mange avec son invité. Le quatrième jour, on frappe encore à la porte. Bonjour, je suis le voisin du cousin qui t'a offert le coq. Ah, bienvenue à toi, dit Nasreddin. Il va mettre un peu d'eau à chauffer dans la marmite vide. Quand l'eau est chaude, il la verse dans un bol et il présente le bol à son invité. L'homme y trempe les lèvres et dit « Mais c'est de l'eau que tu me sers là !»« Oh, pas du tout !» répond Nasreddin. « C'est la soupe de la soupe de la soupe du coq que le voisin m'a offert. » Et voilà, c'était « Mais qu'est-ce qu'elle raconte ?» en direct sur Radio Saféréole, avec Sophie Bizet au micro, Pierre Mallet à la technique. L'émission sera retransmise dimanche à 13h. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée à l'écoute de Radio Saint-Féréole. Exceptionnellement, notre émission du mois de décembre ne sera pas en direct, comme le quatrième mardi du mois, ça tombe le 26 décembre. Eh bien, ce sera en différé. Mais je me réjouis déjà de vous retrouver.